Table ovale sans ellipse depuis Rodez, animé par Claude Devezin, qui est entouré ce soir de Jean-Albert Bessières pour le Parti communiste français, de Frédéric Domingue pour l'Union pour un mouvement populaire, Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Jean-Louis Roussel pour le Parti de gauche et Jean-Philippe Sadoul pour l'Union des démocrates indépendants. Et ce soir, nous sommes réunis pour parler des différences entre l'Aveyron et la Bretagne, en dehors des couleurs de bonnet. Donc, pour parler de l'écotaxe et en premier lieu, et puis nous verrons un petit peu aussi l'agroalimentaire. Est-ce qu'on est confronté au même problème? Il faut croire qu'on a quand même quelques similitudes, puisque même le gouvernement nous fait une ristourne, 50% pour la Bretagne, 30% pour Midi-Pyrénées. On n'est pas une presqu'île, mais il faut croire qu'on est quand même enclavé. Alors, cette écotaxe qui va coûter aux consommateurs, normalement, à la finale, et qui est prélevé d'une façon qui étonne un petit peu. L'Aveyron est concerné puisqu'il y a des portiques qui ont l'air moins inflammables qu'en Bretagne, à Rodez, à Nocelles. Et donc, j'observe par ailleurs que cette écotaxe, qui, si j'ai bien compris, est faite pour diminuer la propension qu'ont les gens à utiliser des transports qui génèrent du CO2, apparemment, les camions qui roulent, ou bien il n'y en a pas, ou ils ne génèrent plus de CO2 entre Brive et Le Puy, ou entre Cahors et Rodez, puisqu'il n'y a pas de portique sur ces axes-là. C'est pas les seuls, d'ailleurs, où il n'y a pas de portique. Alors, je serais curieux d'avoir votre sentiment pour savoir si, déjà, d'une part, ça va être efficace pour ce qui est des émissions de CO2 et si ça va être redoutable sur les prix. Ben, puisque pour l'instant, la mise en œuvre initiale, si j'ai bien compris, c'était plutôt les gens de l'UDI, qui étaient, enfin, du moins le ministre, c'était M. Borloo. Alors, donc, je voudrais écouter M. Sadoul, puisque c'est l'initiateur, si je ne me trompe pas, ou si ce n'est vous.
Je n'étais pas l'initiateur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de CFM. D'abord, alors, effectivement, cette mesure d'écotaxe, cette mesure de taxe poids lourd sur le réseau routier français est issue de principes et d'une loi, d'une grande loi qui s'appelle le Grenelle 1 et le Grenelle 2 de l'environnement, que beaucoup de parlementaires ont adopté il y a déjà 3-4 ans. Et donc, parmi ces mesures, donc, faisait une part à l'écotaxe, dont le principe était de taxer les trajets kilométriques parcourus par les camions de plus de 3,5 tonnes sur des trajets non payants aujourd'hui, puisque des trajets sont déjà payants avec le réseau autoroutier français. Et donc, ça avait le mérite d'alimenter un fonds qui devait alimenter donc la construction, la rénovation de réseaux de routes modernes et de réseaux routiers également, de réseaux ferrés également. Alors, tout simplement, je veux dire, aujourd'hui, c'est l'écotaxe, elle a mis quelques années à se mettre en place, et aujourd'hui, les Bretons ont commencé à faire l'actualité. Elle a été suivie, cette actualité, et ces manifestations ont été suivies dans tout le pays. Mais je crois que au-delà de l'écotaxe, c'est le matraquage fiscal qui est sanctionné. Aujourd'hui, je crois que ce matraquage, les Français en ont assez, et particulièrement les entreprises. Et donc, je crois que c'est pas spécialement la Bretagne qui exprime des remarques ou des. C'est vrai qu'elle l'a fait de manière un peu plus violente, si je vais m'exprimer comme ça. Mais c'est surtout c'est l'ensemble de ces mesures fiscales qui ont touché l'ensemble des Français depuis 2012 qui sont aujourd'hui condamnés.
Ah, est-ce que la façon de l'apercevoir n'est pas un peu étrange, parce qu'on a l'impression quand même que ça doit être facilement contournable? Après tout, il y a un portique à tel endroit, on contourne le portique et puis on reprend la route. Alors l'argument du ministère est de dire non, les camions préfèrent filer tout droit. Quelle idée vous en faites-vous, monsieur Roussel?
Je pense qu'à l'origine, l'idée de l'écotaxe pouvait paraître séduisante à partir du moment où les objectifs, c'était évidemment de transformer un petit peu les modes de transport, notamment des marchandises, avec le côté multimodal, le fait de pouvoir, à terme, peut-être réfléchir les recettes de cet impôt vers peut-être réhabilitation du transport ferroviaire, le fret.
Le conseil général de Tarn-et-Garonne en attend beaucoup de revenus pour améliorer
le conseil général de l'Aveyron.
De l'Aveyron.
À l'occurrence, le conseil général de l'Aveyron est allé dans le sens un petit peu de la contestation générale, puisque la majorité a adopté une motion pour demander la suspension, voire la suppression de l'écotaxe. Mais dans l'Aveyron, le problème, c'est le conseil général, d'un point de vue technique, a dû valider l'installation.
Normalement, les collectivités devraient recevoir.
Non, alors, sur ces questions-là, évidemment, quelle recette ça doit générer pour évidemment une politique écologique à travers une fiscalité. Mais si on s'arrête juste sur la notion de fiscalité, ça ne fait pas une politique écologique. L'Aveyron, c'est un petit peu particulier. Nous, on aurait souhaité effectivement qu'il y ait des recettes qui permettent à l'État d'assumer notamment la mise en conformité de ses routes nationales, comme la RN88, qui pose une vraie question dans l'Aveyron, puisqu'on ne voit pas s'acheminer le doublement de la RN88 à partir de Rodez jusqu'à Sévrac, et c'est à l'État de l'assumer. Donc on aimerait bien qu'il y ait des recettes, voire spécifiques à travers l'écotaxe, qui permettent à ce que l'État soit au rendez-vous de ses propres routes, et notamment dans notre département, qui est relativement enclavé. Ce qui posait peut-être un souci au Conseil général, c'est de se dire que là où on a installé des portiques, ça pouvait entraîner effectivement, de la part des transporteurs routiers, le fait d'éviter ces voies pour emprunter d'autres routes départementales, et évidemment de mettre en difficulté et d'abîmer les routes que le Conseil général assume financièrement. Bon, ça, c'est une chose. Je noterai qu'en préambule, il me semble qu'une borne écotaxe, la Panouse de Sévrac, a été abîmée, monsieur Devezin. Donc, je pense que l'Aveyron a quand même été impacté par le mouvement anti-écotaxe. Moi, ma question, elle n'est pas là. Je pense que le problème des recettes prévues et les objectifs environnementaux ne seront pas atteints, c'est-à-dire la volonté réelle de vouloir remettre le fret à travers le ferroutage, de prévoir le fluvial, enfin de prévoir une transition des nouveaux modes de transport plus écologiques, ne sera pas au rendez-vous ni des recettes attendues, ni d'une réelle volonté politique derrière. Et c'est bien ça le problème. Si l'écotaxe paraissait séduisant, aujourd'hui on peut contester qu'une juste mesure, juste une mesure fiscale comme ça, ne sera pas au rendez-vous de la transition énergétique et notamment de la transition de nouveaux modes de transport des marchandises sur la route.
Mais on a l'impression que c'est plus dissuasif qu'une provision, parce que ce qui en est attendu, c'est 1 milliard 150 millions. Ça fait pas beaucoup de kilomètres de canaux ou de voies ferrées. Hein.
Oui, mais alors revenons au fait que l'État a décidé de mettre en concession le recouvrement de cette écotaxe à travers une société privée italienne, Ecomove, et que ce partenariat dit public-privé fait en sorte que pour la première fois, puis c'est le partenariat public-privé le plus cher que l'État va devoir assumer, et cette société va pouvoir récupérer 25% des recettes prélevées juste pour se défrayer annuellement du fait de la prélever, sans forcément s'il faut recourir à des amendes ou poursuivre ceux qui ne payent pas, ça sera par contre au fisc français de le faire. C'est peut-être une aberration d'imaginer que 280 millions d'euros par an seront récupérés et restés dans la manne de cette société italienne qui justement à emporter le marché d'une façon plus ou moins aléatoire et douteuse. Donc c'est une façon aussi que l'État, pour la première fois, a eu de privatiser la collecte de l'impôt à travers cette société privée. Mais 280 millions d'euros sur 1 300 000 euros de recettes attendues qui partent dans les mannes d'une société chargée privée de récupérer l'impôt pose une vraie question quant au niveau des recettes attendues pour rapport à une politique écologique.
Alors ça pose effectivement une vraie question, parce qu'en plus ça ne serait pas la première fois qu'on verrait une taxe attribuée à ceci ou à cela et en vertu de la non-attribution de l'impôt passer à autre chose. Monsieur Domingue, je crois qu'en plus de l'UMP, vous avez quelques accointances dans cette question.
Oui, enfin, bonjour d'ailleurs à toutes, aux auditrices et aux auditeurs. Moi, j'interviens aujourd'hui, au titre de l'UMP, et puis je suis peut-être favorisé ou défavorisé, puisque j'interviens aussi en tant qu'acteur civil, représentant des transporteurs routiers aveyronnais. Alors, cette écotaxe, je préciserai par rapport à ce qu'a dit Jean-Philippe ça tout à l'heure, effectivement, elle a été mise en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement 1 en 2008, et elle était soumise à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de la population française y sont défavorables, elle était soumise à trois conditions. D'abord, elle devait permettre de rétablir une iniquité fiscale entre les transporteurs français et étrangers. Je m'explique. Aujourd'hui, la France est un pays de transit au centre de l'Union européenne et seuls les transporteurs français payent une taxe qui s'appelle la taxe à l'essieu pour avoir le droit de rouler sur nos routes. les étrangers ne la payent pas. Et dans le Grenelle de l'environnement 1, ce qui était prévu, c'était de supprimer la taxe à l'essieu aux transporteurs français et établir une écotaxe, une taxe kilométrique que tous les utilisateurs, français ou étrangers, payeraient. Or ça, ça a été enlevé du volet du Grenelle de initialement prévu dans le Grenelle de l'environnement, ça a été enlevé. Deuxième point qui n'a pas été pris en compte, ça a été, et c'est là où je rejoins un petit peu le cas de l'Aveyron avec les Bretons, c'est le cas des enclavements. Dans l'Aveyron, aujourd'hui, quand un industriel ou un agriculteur ou un producteur agroalimentaire veut exporter un bien, il n'a pas le choix du mode de transport. C'est bien beau de dire qu'on veut transférer le mode de transport routier vers un autre, mais faut-il avoir le choix ? Alors ce choix, il n'est pas, c'est pas la faute du Parti socialiste, que d'ailleurs que je regrette qu'il n'y ait pas de représentant aujourd'hui, je peux le comprendre d'ailleurs. Ce n'est pas la faute de l'UMP, c'est la faute de tous nos gouvernants depuis 20-30 ans qui n'ont pas fait peut-être des choix de transférer le mode vers le mode ferré fret. Puisqu'aujourd'hui, 95% du mode ferré est attribué au transport de voyageurs et le transport de fret n'est pas pris en compte. Je donne un exemple. Il y a quelques années, pas mal d'exploitants forestiers dans l'Aveyron et de transporteurs se sont mobilisés avec les cheminots pour sauver la gare de fret en transport de bois de Rodez. Et elle a été fermée. Elle a été fermée parce que la SNCF estimait non rentable. Alors je cite aussi la SNCF parce que tout à l'heure, mon collègue Jean-Luc Roussel disait c'est une entreprise italienne qui a eu le marché. Faux. C'est un consortium qui s'appelle Ecomove, où il y a une entreprise italienne, soit, mais bon, on est dans l'Europe. Hein. Les marchés publics sont européens, donc on ne peut pas reprocher non plus être pro-européen et de l'autre côté se plaindre quand d'autres entreprises ont les marchés. Mais, donc il y a bien un consortium italien, mais il y a aussi la SNCF qui est partie prenante dans ce marché. Il y a Thales, il y a SFR, donc des entreprises bien françaises qui sont dans ce marché. Et nous, là où je le rejoins, c'est que nous contestons le fait que ce soit une entreprise privée européenne, franco-italienne, qui a eu ce marché, alors que ça aurait pu être l'État qui collecte cet impôt, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Et derrière, l'argent qui aurait été collecté aurait pu permettre éventuellement de financer d'autres modes de transport. Mais je dis éventuellement parce que là aussi, il ne faut pas mentir aux gens, quand le ministre du budget a voté au mois de juillet la mise en place de l'écotaxe au 1er janvier, il n'a pas précisé que cette taxe, elle partirait à l'AFIT, Agence de financement des infrastructures terrestres. Il est précisé que les revenus de cette taxe partiraient au budget général de la nation. Quand on sait... les anciens se souviennent de la vignette automobile qui devait financer les retraites. On a vu qu'elle finançait très peu les retraites et beaucoup d'autres éléments. Donc aujourd'hui aussi, on est sceptique sur le fait que cette taxe ne soit pas fléchée pour financer des infrastructures routières ou ferrées, mais qu'elle est intégrée dans le budget général de la nation. Voilà les quelques points que je pouvais amener en plus de...
Monsieur Bessière, pour le Parti communiste français, je vous voyais opiner apparemment avec une satisfaction évidente quand on parlait des entreprises françaises qui étaient prenantes dans Ecomove.
Non, mais ce qu'a cité Monsieur Domingue sur la lutte qu'avaient menée les cheminots, c'était mes camarades qui y étaient.
On y était aussi.
Oui, mais on a défendu le district EDF à Sainte-Geneviève aussi, avec y compris les agriculteurs. Comme quoi, on n'est pas sectaire, contrairement à ce qu'on nous dit des fois. Par contre, revenons à ce qui nous intéresse, sur l'écotaxe. Je crois que, d'abord, elle a été votée en 2009, ça je le rappelle, par l'UMP. Bon, il est bon de rappeler les choses et les étapes. Le décret, il a été reporté après les élections présidentielles volontairement, parce que je pense qu'y compris Sarkozy devait se douter.
Le jour même, on peut pas dire après.
Le jour même, alors, que ça allait péter la figure de quelqu'un. Bon, voilà. Et ça a été mal fait, ça là-dessus, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, etc. Par contre, sur...
En même temps, moi j'aimerais savoir, dans ce cas-là, ce que vos formations proposent de différent.
Oui, déjà, je vais commencer par rapport à ce que disait M. Douange, c'est que nous, si cette taxe, est normal qu'elle y soit, parce qu'en même, en Bretagne, c'est 99% du transport qui est effectué, à peu près, la route.
Parce que nous n'avons pas le choix. Alors,
la question qui est posée, c'est que ce coût-là va être répercuté sur les consommateurs. On est d'accord. Sauf que aujourd'hui, c'est là où il y a un problème. l'entretien des routes est fait par l'argent des impôts, qu'ils soient communal, régional, du Conseil général ou de l'État, c'est payé par des gens qui payent des impôts. Donc ce qui veut dire qu'on va, d'un côté, augmenter par la consommation, puisqu'il faudra... Les entreprises, elles ne payent jamais, elles récupèrent et elles font payer. Et de l'autre côté, il y a les impôts. Ça veut dire que sur l'entretien des routes, où roule 99% des camions, 99% du transfert est fait sur camion, ça pose un vrai problème. Et c'est quand même les camions, qu'on le veuille ou non, qui détériore le plus les routes, à mon avis. Ensuite,
on est loin de l'éco-taxe hein, pour l'instant.
Oui, non, mais je sais pas.
On du bitume, du CO2.
Et du CO2 en même temps, puisque si 99% de transport par la route, en montagne, en Aveyron, je ne sais pas combien c'est, monsieur Dommage, vous le savez peut-être, on n'est peut-être pas à 99%.
Autant, voire plus.
Autant, c'est un coût pour entretenir les routes, etc., et ça envoie du CO2, mais ça, on est d'accord. Alors, le problème qu'il y a, je peux comprendre un certain nombre de transporteurs qui se sont mis à râler, il faut appeler ça comme ça, ou à revendiquer, comme on dit nous, dans le mouvement syndical, etc., c'est que les gros transporteurs qui font les grandes lignes, ils passent par l'autoroute et ils payent leur autoroute. C'est pas eux qui posent... ceux qui sont embêtés aujourd'hui, c'est reconnu que c'est dans les 120 km autour de... Donc c'est vrai. Les laitiers, d'ailleurs, les camions laitiers, ils sont exonérés de la taxe, hein, si je me rappelle bien. Donc tous les autres camions... On me parlait tout à l'heure, j'avais une réunion où on me parlait du ramassage des ordures ménagères entre Baraqueville et Rodez, où des camions, si, demain, en passant, alors que c'est un service public, hein, ils passeraient, ils paieraient l'éco-taxe. Donc je veux dire, c'est au niveau... Il y a les grosses boîtes de transport qui prennent les grandes lignes, je prends une chose espagnole notamment, qui traverse l'autoroute de Perpignan, voire plus bas jusqu'en haut, ils sont sur l'autoroute, ils payent. Et à ceux qui, sur des petits parcours qui font qu'ils passeront les portiques, eh bien ils payeront, c'est des sous-traitants, c'est un peu comme l'industrie, ça, il y a les gros, les moyens et les petits. Et c'est en bas les petits qui trinquent. Et après, il y a les consommateurs qui, eux, trinquent aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a...
Quelle est la solution du Parti communiste?
Parce que, nous, on n'est pas pour supprimer l'éco-taxe. Qu'il faille revisiter. Mais je crois que, pour répondre à Jean-Philippe, Hérault a annoncé, le Premier ministre, aujourd'hui, qu'il fallait remettre à plat l'ensemble de la fiscalité française. Le président l'avait dit quand il était candidat en 2012. Bon, il est temps qu'en 2014, on s'en aperçoive, pourra être appliqué en 2015. Je suis pas sûr que ce soit fait à l'avantage de l'ensemble de la population. Parce que chacun devient très égoïste dans cette société. Et les patrons pour ce qui leur reviennent. Et ceux qui trinquent au bout du bout, chaque fois, c'est quand même la population la plus démunie, les salariés, les classes moyennes commencent à payer largement. Il arrivera un moment avec toutes ces taxes qu'il va falloir arrêter. Donc, il faut vraiment repenser, en effet, oui, comme le propose le gouvernement, d'aller revisiter toute notre fiscalité. Mais il ne faut pas ne faire, je dirais pas des cadeaux, mais avantager que ceux qui aujourd'hui ont plus. Il faut penser à ceux qui ont moins. Voilà, pour l'instant.
Monsieur Gros, pour le MoDem, alors vous vous intéressez plus au bitume ou au CO2?
Les deux. Le problème n'est pas là. La question, c'est que on est quand même un pays extraordinaire parce que nous, je crois que c'est Coluche qui avait dit, vous prenez un énarque, vous le mettez au Sahara, dans un an, il n'y a plus de sable. Et quand même, l'histoire de cette écotaxe, c'est fantastique. D'une bonne idée, on arrive à faire un merdier extraordinaire. Alors, monsieur Domange, dit on à chaque fois, vous avez dit on, hein. Alors, je n'ai pas su si vous parliez en tant que transporteur ou en tant qu'UMP.
Les deux.
Parce que vous avez critiqué l'attribution du PPPP. Ouais. Ça a bien été la ministre UMP de l'écologie à l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, avec son collègue du budget et Darouin et Pécresse, le jour même du changement de...
Mais vous savez, moi je fais partie des gens à l'UMP qui disent qu'on a aussi un droit d'inventaire. Hein.
Oui.
Je dis pas que tout ce qui a été fait par le passé était bien. Voilà. Et puis aussi la conjoncture économique a changé.
Voilà.
Et je me rappelle de la présidentielle où le représentant du MoDem et du Parti Socialiste, François Hollande, disait « il n'y a pas de crise ». Il n'y a pas de crise économique. on s'aperçoit aujourd'hui, les Français s'aperçoivent qu'il y a une crise économique.
Vous ne devez pas lire la même presse, excusez-moi. Parce que nous parlons de la crise depuis 2002. François Bayrou a été le premier à parler de la crise de la dette aux élections de 2002. Il s'est insurgé contre la privatisation des autoroutes en 2005. Il est même le seul à avoir hurlé contre la privatisation des autoroutes. Le Parti Socialiste ne l'a pas suivi. Non, ça a été privatisé en 2005. C'est Villepin qui a vendu le paquet. Et ça a tellement bien marché pour eux, c'est que le Harvard Business Review a fait le palmarès des chefs d'entreprise les plus rentables pour leurs entreprises. Sur 3 années, ils regardaient, même après le départ du dirigeant. Il y a un seul Français dans le tas. Bon, le premier, c'était fatalement Steve Jobs à l'époque. Mais le seul Français qui a réussi à se glisser là-dedans, c'est Zacharias, le patron de Vinci. Et il est parti avec 28 millions d'euros de primes de sa société, tellement il l'a enrichi avec la privatisation des autoroutes. Alors, vous avez parlé de l'affectation, effectivement, aussi, que vous trouvez, l'affectation que vous trouvez douteuse, parce que ça va aller dans le pot général, effectivement. Bon, globalement, il faut dire une chose, c'est que l'écotaxe, c'est un truc important. En même temps, on ne peut pas lui demander d'être...
C'est l'affectation dans le budget général de la nation, ce n'est pas l'ancien gouvernement qui l'a fait. Hein.
Oui.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Bon. C'est l'actuel ministre du budget, Bernard Cazeneuve, au mois de juillet.
Bon. D'accord. Non, mais je vous fais confiance. Pour ma part, je n'ai pas de préférence entre Bernard Cazeneuve et Valérie Pécresse. Mais il faut bien dire une chose, c'est que l'écotaxe est un truc important. Si on veut qu'il y ait un transfert de l'usage de la route vers la voie ferrée. Sauf que quand il n'y a pas de voie ferrée, ça pose un problème. Et deuxièmement, si c'est indolore, parce qu'on dit ça va coûter cher, mais si c'est indolore, il n'y aura pas d'effet.
Vous connaissez les taxes indolores, vous ?
Non, mais il faut que ça coûte. Il faut que ça soit plus coûteux pour les entreprises de faire voyager leur production par la route que par le train, si on veut qu'elles choisissent le train.
Donc ça suppose que les entreprises qui produisent des biens en Aveyron vont voir leur prix, leurs biens augmenter. Ils n'ont pas le choix du mode de
transport. Excusez-moi, ici c'est autre chose. Nous n'avons pas la voie ferrée. Mais dans les endroits où il y a la voie ferrée, il faut que ça soit, qu'il y ait les possibilités, effectivement. Il faut que les oranges qui arrivent à Rungis d'Espagne voyagent plus facilement en train qu'elles ne peuvent le faire aujourd'hui. Et il faut que ce soit coûteux pour un producteur d'oranges de les faire venir par le camion. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je pense que c'était le sujet du Grenelle de l'environnement, essayer de redistribuer la fréquentation des transports.
Moi, je vais vous donner une anecdote. Quand on parle de nos régions, une eau minérale qui est relativement connue dans la région, c'est pas Aveyronnais, mais c'est un département voisin, l'eau Quézac, qui est dans Lozère, il y a quelques années, 80% de leur transport se faisait par la voie ferrée. Et puis, ils l'ont remis sur la voie routière, alors que ça leur coûte plus cher. La voie routière, à votre avis, pourquoi ?
C'est
par rapport à la fiabilité du mode de transport.
C'est plus sûr,
parce que les prises de rendez-vous de leurs clients dans la grande distribution, par le fer, ça arrivait, dans 50% du temps à l'heure, 50% en retard, et leurs clients leur ont dit, ou vous arrivez à l'heure, ou on ne vous accepte plus dans nos magasins. Et ils l'ont remis sur le mode routier.
Ouais. C'est tout à fait vrai. En fait, ce sont les syndicats des chemins de fer, chez Jean Albert, qui ont tué le fret ferré.
Je suis surmodéré et je rejoindrai.
C'est les deux. Si je peux me permettre, c'est vrai que la part de marché du transport de marchandises par route est passée de l'année 1980 à 70%, à près de 80, un peu plus de 80% aujourd'hui. C'est dû aussi à la compétitivité des entreprises de transport. Transport français d'abord, qui ont été très compétitives dans les années 80-90. Et aujourd'hui, c'est entreprise de transport européen. Donc vous avez des prix très bas et aujourd'hui, l'écotaxe avait le mérite de taxer, comme on disait tout à l'heure Frédéric Domège, de taxer des entreprises qui ne payaient pas d'impôts en France. Si vous prenez un transporteur espagnol ou affrété par un transporteur espagnol, un camion bulgare avec un chauffeur bulgare qui traverse la France, il ne mettra pas une goutte de gasoil français, il ne paiera pas 1 euro de TVA, ne paiera pas 1 euro de péage. Et je dis même mieux, si quand on parlait de l'efficacité des écotaxes, parce que c'est pas le portail qui détermine s'il y a une taxe ou pas, c'est le trajet qui est écotaxé. Donc le trajet est écotaxé ici de Toulouse à Rodez, c'est la totalité du trajet. C'est pas le portail de Luc ou de Nocel qui détermine l'écotaxe. Ça, c'est un moyen de contrôle uniquement.
Le portail, c'est un gendarme.
Exactement, c'est un moyen de gendarme.
Ça veut quand même dire qu'il faut qu'il passe un portique à l'entrée.
Non, forcément. À partir du moment où vous posez une roue de votre camion sur un trajet écotaxé, vous payez la taxe. Donc, parce que vous avez
portique ou pas portique.
Le camion est un gendarme.
Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous avez, le vis au quotidien dans mon métier. Quand vous avez une clientèle de chauffeurs bulgares avec transporteurs bulgares roumains, vous avez des taux horaires. Un taux horaire de transport défiant toute concurrence, c'est même scandaleux.
Mais là, on est prêt à se battre, nous, avec...
Oui, mais je comprends, Jean-Albert, et je comprends. Et je veux dire que, donc, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la même notion du temps ramené au prix horaire que le transporteur français. Et là, on a vraiment abîmé la notion de transporteur français. Et au-delà de ça, c'est l'économie aveyronnaise, c'est l'économie bretonne, parce qu'on est un département un peu en périphérie des grands axes routiers. Et donc, forcément, on a un impact sur le transport qui est important. Et moi, j'en reviens à quelque chose d'important. Et je pense qu'il faut le faire et que l'Europe nous impose d'avoir une harmonisation au niveau de la concurrence européenne. Je veux dire, comment veut-on accepter aujourd'hui, en 2013, d'avoir un chauffeur roumain ou bulgare qui travaille pour 200 euros par mois? Je veux dire, c'est impensable. Et travailler, et même dans un nouveau type de transport, Jean-Albert, où je veux dire même, ça se développe depuis la Pologne, où vous avez du transport sur du 3,5 tonnes de poids total en charge, donc exonéré d'éco-taxes, exonéré de contrôle de conduite avec des fourgons, avec des personnes qui travaillent 14-15 heures. On les ramenait à un mode de transport utilisé il y a
archaïque,
moins de 50 ans. On exploite
et dans des conditions sociales.
Il faut faire la police. Il faut faire un peu.
Je suis d'autant plus d'accord là-dessus.
Cette harmonisation que européenne aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a abandonné depuis des années et des années la culture. Je pense que M. Gros du Modem sera d'accord avec moi, c'est-à-dire renforcer le principe de l'harmonisation au niveau de l'Europe, et je crois qu'il n'y a que cette solution.
De quelle harmonisation on parle, voilà.
Monsieur Sadoul, l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale,
clairement interdit.
Je veux dire, aujourd'hui, on a un problème.
La fiscalité a été retirée expressément de tous les traités européens.
Mais parce qu'on l'a accepté.
Oui, mais faut pas venir pleurer aujourd'hui qu'on peut pas faire imposer au niveau de l'Europe à travers ces traités une harmonisation fiscale en Europe, puisque ça a été expressément retiré, ça n'existe pas dans les textes. Ce qui permet évidemment à certains pays de ne pas avoir d'imposition, que ce soit à travers différents niveaux sur la partie sociale, sur la partie environnementale et sur la partie donc revenu des sociétés, imposition des sociétés. Donc forcément, vous retrouvez avec des pays en Europe qui font du dumping fiscal et social à travers même leurs transporteurs, qui font en sorte que il n'y a pas de concurrence.
Mais ça n'est pas l'Europe que nous défendons. Mais en tout cas, sur ce que vous disiez sur les transporteurs, si vous allez sur une aire d'autoroute la nuit entre Paris et Saint-Flour, vous arrêtez à une aire d'autoroute, on ne parle plus français chez les camionneurs.
C'est roumain ou polonais.
À propos des camionneurs roumains ou polonais, je vous signale que normalement, le réseau ferré sera bientôt en concurrence. Donc vous aurez peut-être des conducteurs de train.
Mais c'est ce que je voulais dire au propos de Jean-Philippe. Le problème, c'est que tous ces chauffeurs, tout ce qui coûte moins cher, eh bien, après, ça entraîne quoi? Ça a des conséquences sur le côté en France, où y compris les chauffeurs français, les camionneurs français, alors les patrons, mais aussi les ouvriers, eh bien, ils sont obligés de toujours dire comment on fait pour être compétitif. Un jour, ils seront plus compétitifs, et c'est les gros qui vont les bouffer. Hein? Mais en même temps, parce que on parle des marchandises, mais ce qui se passe sur le rail, c'est que ils attaquent maintenant, y compris par rapport à l'ouverture du marché, sur les transports humains, transport des hommes. Il y a plein d'endroits où il faut prendre des cars, même où là, et on parlait l'autre jour de la ligne Cahors. Cabdenac, elle marchait très bien, cette ligne. Je la connaissais bien, j'ai vu passer le train pendant mes vacances quand j'étais tout petit chez ma grand-mère là-bas. Et le train, il marchait. Il suffisait d'arranger un peu la voie et ça marchait. Et Millau Rodez, qui rejoint là-bas. Il y passe 4 trains par jour. Allez, je vais être 10 peut-être. Mais de fret, j'en ai pas vu beaucoup, hein.
Non.
Okay. Voilà. Il y a des choses à faire.
Sur le problème rail Midi-Pyrénées, on peut pas dire que
il s'est fait des choses
énormément, extrêmement onéreuses. On a investi un plan rail de plus de 500 millions d'euros. Oui, pour quel résultat?
C'est insignifiant.
Et donc la région est venue. La région, c'est nous tous.
Et
aujourd'hui, on n'a pas de résultat.
Le problème concerne la part de la région.
Je comprends, mais je sais que c'est sur le transport de personnes, je suis d'accord, mais à rénover du rail, je veux dire, c'est inconcevable de ne pas utiliser ce même rail pour transporter la marchandise.
T'as le train ce soir, parce que j'ai vu un mec ce matin en achetant le journal, il prenait le train, hein, il partait en car jusqu'à Brive. Ça commençait bien son truc, hein, à midi. Voilà.
Monsieur Bessière, arrêtez de faire l'agence de voyage. Et maintenant, je voudrais quand même qu'on se... Après, on va passer au deuxième sujet, il serait temps. Mais elle est reportée à 2015. Bon, très bien, elle est reportée à 2015. Mais en 2015, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vos formations ont des propositions pour l'améliorer? Oui, alors l'UMP a des propositions apparemment.
Oui, mais d'abord, premièrement, je fais partie d'une formation politique qui a proposé de mettre en place cette taxe kilométrique à l'époque, donc je ne vais pas me contredire. Par contre, nous étions dans un autre contexte, et entre-temps, il y a eu, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, Jean-Philippe Sadoul, 60 milliards de prélèvements en plus pour les citoyens depuis un an et demi. Donc 60 milliards de plus, si on prend, à la fois les taxes, les impôts locaux, nationaux, c'est 60 milliards de plus de prélèvements. Donc,
pour l'instant, Hollande est à égalité avec Sarkozy.
Je termine. Oui, non, mais je dis pas que tout a été bien fait. Je pense pas que votre président du MoDem aujourd'hui il regrette d'avoir voté François Hollande au second tour. Il l'a dit l'autre jour. Donc, lui aussi, il regrette certains choix. Et nous aussi, on regrette certains choix.
Il a fait le bon choix de rejoindre.
Je pense aussi. Sa famille d'origine.
Une bonne famille.
Mais ce que je veux dire, je pense aussi. Mais par contre, ce que je veux dire, moi, vis-à-vis de la taxe, je pense que dans un premier temps, aujourd'hui, il est urgent de supprimer la taxe Ecomove, qui va engraisser un consortium franco-italien, pour remettre autour de la taxe. Mais non, mais attendez. Qu'il a décidé, le contrat a été initié à l'époque par la ancienne majorité, et je vous ai dit, j'ai pas de complexe là-dessus. Je suis pour le droit d'inventaire, d'accord? Donc, à partir de là, ça ne me pose pas un problème. Par contre, elle a été signée aujourd'hui, au mois de juillet, par Bernard Cazeneuve. Donc, on a fait des erreurs par le passé et elle les continue aujourd'hui dans un contexte économique beaucoup plus dur aujourd'hui. Et je ne pense pas que les citoyens français et les citoyens aveyronnais sont en posture aujourd'hui pour payer une taxe supplémentaire. Voilà ce que je dis. Donc, dans un premier temps, on supprime l'éco-taxe Ecomove, on met les partenaires sociaux autour de la table. On rediscute pour voir comment mettre en place une taxe kilométrique qui permettrait aux entreprises françaises de rétablir une inéquité fiscale qui existe depuis des années. Voilà, je donne un autre exemple. Où aujourd'hui, on trouve que cette taxe n'est pas bonne.
Qui a l'air de vouloir répondre. Voilà. Et on passera après.
Non, mais j'aimerais aussi que le gouvernement assure le fait de vouloir qu'on fasse la transparence sur la distribution de ce marché Ecomove. Je rappelle déjà que ça avait fait l'objet d'une procédure pour corruption dans le tribunal administratif Sergi Pontoise à l'époque, à travers ce qui s'était passé dans le mode d'attribution, puisque une société qui était concurrente sur le marché avait dénoncé des choses qui étaient malveillantes. Et d'ailleurs, le patron de cette société a été vite remplacé par Monsieur Alain Mec, un des conseillers spécifiques de Monsieur Sarkozy. Donc j'avoue que si le gouvernement actuel n'essaie pas de faire la transparence sur la distribution de ce marché, alors qu'on risque d'avoir des amendes à payer à cette société qui a eu le marché, le fait de ne pas imposer. Donc ça, c'est une vraie question sur le fond. J'aimerais que ce gouvernement, là-dessus, aille jusqu'au bout de la clarification. Et je pense que le droit d'inventaire, on aurait pu déjà le faire à l'époque, Monsieur Domingue, très clairement. Ensuite, je reviens sur le fait que c'est quand même 70% du capital de cette société.
C'est pas mes amis qui sont au gouvernement.
Qui est une société italienne et qui est une société d'autoroute en Italie. Alors, c'est pour vous dire que les sociétés privées qui récupèrent les recettes des autoroutes, que ce soit en France ou en Italie, sont des gens qui sont peut-être aussi à surveiller de près, dans l'intérêt pour elles de ne pas avoir à subir les cotaxes sur leur route. Ça aussi, c'est des vraies questions de fond, puisqu'on sait que les recettes des autoroutes, c'est une pure privatisation de recettes qu'on aurait pu garder dans les recettes de l'État. Ensuite, j'en viens sur la fiscalité. Monsieur Domingue, je dis effectivement qu'on a un matraquage fiscal en France, c'est une réalité. Et quand vous parlez d'inéquité, moi je pense surtout que les Français ont le sentiment que il y a une injustice fiscale globale en France qui font qu'on fait reposer toujours sur les mêmes, les classes populaires, moyennes, de façon générale, à l'impôt, et que c'est elles, au bout du bout, comme disait Monsieur Albert Bessière du Parti communiste, qui paieront d'une façon ou d'une autre. Et que la vraie question, au-delà de l'écotaxe, c'est aussi l'augmentation de la TVA au 1er janvier, qui font que chacun des citoyens, que ce soit un homme ou un enfant, va payer un minimum 100 euros de plus par an dans le budget de l'État, et que d'un côté, on ne taxe pas là où il faudrait taxer, c'est-à-dire le capital, les hauts revenus, les sociétés, les multinationales qui ne paient pas du tout d'impôts sur les sociétés en France, et que c'est ça l'objectif, c'est quand même qu'on ait une réforme, une vraie réforme fiscale, qui remette tout ça à plat pour qu'on ait le sentiment que l'impôt républicain, justement rétributif, et qui va dans le sens de l'intérêt général, soit une chose bien perçue par les citoyens. Donc ça, effectivement, qu'il faut aller dans ce niveau-là. D'ailleurs, je précise que le Front de Gauche fait une marche sur la révolution fiscale le 1er décembre à Paris, justement pour réhabiliter l'impôt républicain et ce sentiment de justice fiscale. Voilà.
Alors, je préfère qu'on aborde le deuxième sujet, parce que la contestation bretonne, c'est pas limité à l'écotaxe. Il y a eu quand même quelques problèmes, c'est-à-dire quelques milliers d'emplois qui ont été supprimés suite aux fermetures d'un certain nombre de productions. Alors, est-ce qu'en Aveyron, qui bénéficie comme la Bretagne d'une ristourne sur l'écotaxe, point important, et qui a quand même quelques agriculteurs, est-ce qu'on peut risquer d'avoir les mêmes problèmes que les Bretons, ou est-ce que c'est parce que les Bretons font du hors-sol, pas nous? C'est ma question.
Il y a eu de la récupération déjà sur la question qui s'est passée en Montagne. D'ailleurs, j'ai bien aimé, alors c'est pas donner un saxifexi, c'est comme ça qu'on dit, oui, à la manif qu'il y a eu l'autre jour, c'était des bonnets verts, j'ai vu, moi, pas des bonnets rouges, mais en tout état de cause, ils ont dit qu'ils voulaient pas d'amalgame comme il s'était passé en Montagne.
Parce qu'on a tenté de les récupérer dans l'Aveyron, je sais que certains étaient venus pour distribuer les bonnets rouges, qui ont été refusés par les transporteurs routiers.
Oui, c'est ça. Il y a eu une tentative. Et...
Ah, les goûts et les couleurs.
Qui c'est qui récupère en ce moment les bonnets rouges? Oui. C'est l'extrême droite. Donc
voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais arriver là, Jean-Louis. Tu m'aides un peu, là, c'est bien. Donc voilà. Donc après, le problème de l'emploi en Bretagne, le problème, c'est qu'il y a une vraie crise de l'agroalimentaire. Une vraie crise qui a des conséquences, on le voit bien, des milliers et des milliers et des milliers d'emplois supprimés, et au nom de la compétitivité. Et le problème des transports n'est pas absent là-dedans, puisque, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, le poulet pas bon, on peut le faire aussi bien, l'écotaxe, elle peut permettre, si ça plombe les transports, les longues distances, peut permettre aux entreprises de rester localisées, c'est un avantage pour localiser l'emploi, c'est un peu un avantage sur le CO2, et c'est ce qu'est au moins les routes. De toute façon, il faut arrêter de délocaliser les emplois, que ce soit des poulets, ou, parce que demain, si ça nous tombe ici, dans l'Aveyron, avec la Bauche, parce que la Bauche, ils ont des camions qui partent le matin, le soir, qui reviennent, etc. Qui viennent de...
Les laiteries aussi.
Les
camions espagnols, maintenant, qui sont au niveau des laiteries chez
attention.
Nous, au niveau de Cantarane.
Faut faire attention.
Le problème qui est porté en Bretagne n'est pas du tout un problème d'écotaxe ou de...
Ma question, c'est sur l'agriculture.
La question sur l'agriculture bretonne, c'est qu'ils ont choisi un modèle d'agriculture qui est effectivement très différent de celui que nous avons, nous. Et ils ont fait une agriculture industrielle. Et aujourd'hui, ce qu'on voit s'écrouler, c'est GAD, qui est un abattoir de porcs bon marché. C'est des porcs qui sont
tués quand même quelques
à 90 kilos. Et c'est des porcs qu'ils tuent à 90 kilos pour faire de la charcuterie bon marché. Les poulets, Tilly Sabco fait 90% de son chiffre à l'exportation vers essentiellement les pays arabes. Or, il se passe que la Commission européenne a supprimé les subventions qu'a données l'exportation sur ce type de produit. Ce produit n'était pas fait pour sa qualité, il était fait pour récupérer la subvention. Ils vendent à perte et récupèrent les subventions. Donc c'était complètement aberrant comme système, mais ça continuait. D'où
s'est
tué lui-même en allant fabriquer des poulets, produire des poulets au Brésil pour faire concurrence à ses poulets français, et ses poulets brésiliens, ils partaient en Afrique et autres. Et le dernier, donc ces entreprises ont plus en détail importante. GAD, c'est 1000 personnes. Tilly Sabco, c'est 350. 350 plus les sous-traitants autour, ça fait à peu près 1000. Quelles sont les entreprises en Aveyron qui touchent ce niveau de personnel? On a vu des chutes d'entreprises, pas dans l'agroalimentaire, mais dans le bois, avec Bozoul, on a eu à peu près 180 personnes. Espalux, Tessèbre.
Ça remonte à un certain temps.
Il y a 2 ans. Il y a moins d'un an, c'était ETA à Sévrac, c'est 170 personnes. Pour nous, c'est important, mais c'est pas du tout la même taille. Et puis, par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que on est relativement... Il y a une espèce de solidarité... comment dire, rural, qui s'exerce bien. Et globalement, on s'en tire. En Bretagne, il faut avouer que si on avait nous-mêmes 1000 personnes d'un seul coup perdues, on ne pourrait pas prendre le coup. Donc, simplement, notre modèle économique est complètement différent. Nous n'avons pas beaucoup de grandes entreprises, comme ça se passe en Bretagne, dans l'agroalimentaire, mais beaucoup de petites unités qui sont assez compétitives, mais sur des produits de qualité. Et il faut se féliciter que l'Aveyron soit resté dans le choix de la qualité.
Oui, donc, oui,
c'est ça, pour lui.
Effectivement, oui. Le choix de la qualité, ça, c'est primordial, c'est prépondérant. Je crois que quel modèle d'agriculture pour la France à partir de maintenant? On a travaillé sur un principe d'agriculture de développement agricole début des années 60. C'était alimenter le pays au niveau de son alimentation, tout simplement. C'est, je répète, donc aujourd'hui, quel choix de production pour qui et comment? Moi, je pense que le défi aujourd'hui, c'est à relever pour notre pays, parce que je crois qu'on a un pays qui est tempéré, qui a plein d'atouts au niveau de l'agriculture. C'est là relever le défi de l'alimentation mondiale. Et donc aujourd'hui, pour cela, on a des entreprises compétitives en France et aussi en Aveyron. Et donc les similitudes avec la Bretagne, évidemment qu'elles existent. Évidemment, la Bretagne est partie sur la production très très forte et bien avant nous, avec un principe pas forcément avéré au niveau de la qualité, pas autant qu'en Aveyron.
Ni l'environnement.
Ni l'environnement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ici en Aveyron, on a encore une structure agricole qui permet d'avoir de l'exploitation raisonnable, raisonnée, avec de l'exploitation, donc de la production variée d'abord, et après vous avez du relais sur les entreprises de développement, des entreprises, pardon, de produits agroalimentaires, ce que j'appelle l'agro-agri-industrie, qui est très important de chez nous. Donc vous avez le premier socle, ce qu'appelle le pétrole vert, l'agriculture, et vous avez le deuxième, la transformation, avec des entreprises agroalimentaires. Ce sont 5000 emplois d'environ, 5000 emplois directs sur la transformation agroalimentaire. C'est 2 milliards de chiffres d'affaires, c'est quand même considérable.
On est bien là, à la même échelle que la Bretagne, si on le met à proportion d'un département et d'une région.
On est à la même échelle, mais nous avons travaillé davantage sur la qualité de nos produits. Nous avons de l'AOC, nous avons du produit labellisé, nous avons travaillé sur ces principes. Donc aujourd'hui, nos agriculteurs ont compris et ont pris ce virage il y a déjà une bonne vingtaine d'années sur sur cette qualité. Bon, après, à nous à relever les défis demain pour continuer et persévérer. Et là aussi, encore, je refais mon, je crois que c'est important aussi, parce que on a travaillé sur les principes d'une PAC forte pendant des années. Aujourd'hui, on a renégocié cette PAC, mais n'oublions pas nos territoires plutôt ruraux, plutôt espacés. Donc ça, ce sont des défis vraiment importants à relever. Mais moi, je sais qu'en Aveyron, et plus qu'ailleurs, nous avons des hommes et des femmes qui composent la filière agricole, qui sont, et moi, je vois ce que nous faisons au quotidien au niveau de l'agglomération, avec les aides à la recherche sur des projets de développement de nouveaux produits. Ça, c'est important, je veux dire. C'est valoriser nos filières, et la filière de l'agro-agri-industrie en Aveyron, c'est quand même la filière...
Monsieur Roussel, dans le meilleur des Aveyrons possible.
Dans l'Aveyron, on peut se féliciter qu'on soit un des deux départements qui se tire la bourre au niveau national sur l'agriculture bio, par exemple. Donc, effectivement, on a des spécificités. J'aimerais que tous les départements français soient au niveau de l'Aveyron dans l'agriculture bio, mais il faut favoriser l'agriculture paysanne et les circuits courts partout, je crois. Il ne faut pas être dans une logique d'agriculture intensive, parce qu'à la sortie, on nous fait des produits de très mauvaise qualité avec la pollution qui va avec, et après on se pose la question des modes de transport polluants qu'on va utiliser. Donc je crois que c'est ça qu'il faut généraliser. Cependant, on n'y arrivera pas, et dans le monde entier, il faudrait que chaque territoire soit autosuffisant en termes d'agriculture et en circuit court. Mais si on modifie pas les directives européennes qui l'empêchent à la sortie, je peux vous assurer qu'on continuera à avoir des problèmes de malbouffe, des problèmes de production, et que les petits paysans vont continuer à disparaître, alors que ça faisait la spécificité et l'honorabilité de l'agriculture française.
Monsieur Lemage.
Oui, moi je rejoindrai sur un point mes collègues sur le fait qu'on ne peut pas comparer la situation aveyronnaise à la situation bretonne. C'est au niveau globalement de la qualité des produits agroalimentaires aveyronnais. Par contre, là où on a un point commun avec la Bretagne, c'est l'enclavement. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Grenelle de l'environnement, ils avaient accordé 50% de remise à la région Bretagne, 30% à Midi-Pyrénées, 30% à l'Aquitaine, puisqu'au titre de région relativement enclavée. Enclavée, alors on peut rire en se disant mais... Aquitaine, c'est enclavé. Oui, c'est enclavé au niveau du choix du mode de transport. c'est là. L'enclavement, il est pas sur le fait qu'on soit... on soit au fond d'une péninsule ou autre, c'est le choix du mode de transport. Et c'est vrai qu'en Aveyron, là, on est globalement meilleur que les Bretons au niveau de la qualité agroalimentaire. Par contre, on a la même problématique au niveau de l'enclavement, au niveau du choix du mode de transport qu'on n'a pas. Et je me répète là-dessus, mais aujourd'hui, les industriels, si même s'ils voulaient le faire passer par le mode ferré, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Pour des raisons techniques, je ne vais pas rentrer là-dedans, le système Mogador, pour des raisons de choix politique, de peut-être avoir dédoublé certaines lignes ferrées pour avoir une pour le transport de voyageurs,
non, tendre, une pour le mode de transport. Il faut tendre pour réhabiliter le fret ferroviaire.
Mais on est d'accord, hein. Mais on est d'accord, hein. Il n'y a pas de problème.
Mais il faut le dire.
Mais il faut pas. Mais nous, on le dit, hein. On fait partie d'un collectif pour la réhabilitation de la ligne Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand. Mmh, j'y ai participé il y a quelques années en tant que citoyen, hein, pas en tant que militant politique, mais vous savez, c'est souvent lié, hein, le militantisme et la participation active dans la vie civile. Hein. Donc, voilà. Après, vous savez, il ne faut pas critiquer et dire l'agroalimentaire, elle est bonne chez nous. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Roussel, et dire, mais par contre, derrière, on a des modes de transport polluants. Vous faites partie d'une équipe qui, à l'agglomération du Grand Rodez, a choisi d'exporter les déchets du Grand Rodez dans le Tarn-et-Garonne plutôt que de faire un choix local.
C'est le syndicat départemental des ordures ménagères qui est un syndicat. Donc, je dirais par toutes les collectivités et le conseil général.
Vous êtes au pouvoir, Impulse. Donc, vous pourriez aussi choisir d'autres.
Monsieur Demange.
Écoutez. Et donc, par contre, moi, je voudrais saluer quand même tout à l'heure sur ce point. Je voudrais saluer sur ce point la motion qu'a votée le conseil général de l'Aveyron, hein, la majorité et une partie de l'opposition, pour soutenir la suppression de l'écotaxe. Tout simplement, c'était pas pour soutenir les transporteurs, hein. Je suis pas naïf, c'était surtout pour soutenir l'économie, aveyronnaise, pour pas que les produits aveyronnais qui sont produits made in Aveyron, aient un surcoût à l'exportation, quoi. Voilà.
On aura tous les camions qui traversent la France, qui traverseront l'Aveyron à travers la RN 88, la 75, on les aura quand même. Pas de souci.
Monsieur Messière.
Juste, non, bon, non, je peux pas.
Le
Sidom, je peux pas lui laisser dire ça.
Je
peux pas lui laisser dire ça, puisque.
Vous allez me rappeler son nom, laissez-moi vous poser ma question.
Oui.
Je suis en train de me souvenir que le premier à avoir parlé du ferroutage, ça s'appelait ferroutage à l'époque. Et c'était un ministre des Transports communiste, dont le nom est en train de m'échapper en ce moment, mais vous, il va sûrement.
Annissé Lepore.
Non, Fitterman.
Fitterman
avant.
C'était Fitterman, effectivement. Ça fait combien d'années? Ça doit faire une quinzaine d'années, à peu près.
C'était en 81, hein, pareil, voilà.
Bon, encore plus. Voilà. J'ai pas vu l'ombre de l'orientation.
Mais s'il y a des orientations politiques qui n'ont pas été suivies. Vous savez, à l'époque, on y est resté 2 ans, je crois, au gouvernement. On y est revenu après. Mais on ne nous a plus refilé le transport, en ce qui me concerne. Si Guesso est revenu, et il a fait le viaduc, parce que personne, ni les socialistes, personne ne voulait prendre la décision de le faire payant. Parce que le problème, il était là. Personne, parce que, Clermont-Béziers, ça devait être une autoroute gratuite. C'était comme ça. Comme les Bretons, tout est gratuit en montagne pour les transports. C'est pour ça qu'ils veulent rien payer. Pourquoi payer quelque chose qu'on ne paye pas depuis...
Vous
qui êtes plus historien que moi.
Ça leur a été conseillé dans le cadre des désenclavements. Et effectivement, ils ont une 2x4 voies. Hein? Ça n'est pas une autoroute, c'est une 2x4 voies, mais c'est la même chose.
Oui.
Mais c'est gratuit.
Et je pense qu'on aurait dû garder ça, nous aussi, plutôt que de privatiser les autoroutes, etc. Donc, le ferroutage, il y a du boulot à faire. Il faut savoir que la ligne Toulouse-Rodez, si le conseil, et là on est d'accord, n'avait pas fait les efforts qu'il a fait pour la voie, on aurait même pu transporter des voyageurs à terme. Dans 10 ans, on ne pouvait plus faire passer de locomotives avec un nombre de... etc., etc. Il fallait refaire la ligne. Et la doubler, etc. Donc, quand on parle après de transporter des tonnes, etc., parce qu'à une époque, ça se faisait, ça venait jusqu'à la RHT, ça venait aussi jusqu'à le château.
L'Arsac. On l'a toujours gardé. L'unité d'accueil.
Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la ligne n'était pas assez sécurisée, ce que m'ont expliqué mes cheminots, les cheminots que je connais bien. Et puis, en plus, on ne pouvait pas y mettre suffisamment de wagons, de poids. en fret. Ça valait pas le coup de venir avec trois wagons de Toulouse où il fallait, voilà. Et donc on était dans, il fallait consolider la voie ferroviaire.
Parce qu'on fait encore du rafistolage. On veut envisager le transport ferroviaire comme il se faisait avant. Mmh. Il n'y aura de transport ferroviaire nouveau que lorsqu'on aura des porte-conteneurs sur rail avec des conteneurs qui iront du
camion
au train et que tout sera revu.
C'est ça qu'on doit réfléchir tout, avec les professionnels
lorsque tout sera revu. Mais on fait toujours du rafistolage. Et après, c'est comme l'éco-taxe, on a fait un rafistolage.
Tout à fait, mais là-dessus,
au lieu de faire du nouveau.
Là-dessus, on est d'accord.
Sait-on si les voies ferrées que la région a largement financées pour transporter un gros autocar, parce que c'est l'autorail en question, c'est un gros autocar qui va de Toulouse à Rodez en passant par la Guépie. Ces lignes qui ont été refaites, est-ce qu'elles sont capables de transporter de supporter du fret?
Non. Techniquement, sous réserve des vérifications.
C'est un tramway, quoi.
C'est quand même un autorail où ce sont des autorails quand même bien améliorés, quand même, qui pèsent quand même un certain poids, qui sont capables de prendre pas mal de passagers. Mais au niveau d'un lot complet de marchandises, ça se faisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, au niveau des engrais notamment, au niveau des matériaux, le viaduc de Vieux, on n'accepte pas un surpoids et ça peut se comprendre aisément. C'est un ouvrage qui a été conçu donc au siècle d'avant encore, donc et donc il n'accepte pas le surpoids d'un wagon avec ses poids à l'essieu sur ces wagons. Donc il y avait la solution, parce que quand on l'envoie, parce que faut comprendre, Frédéric Domain, je connais bien le métier, quand on envoie la marchandise qui est très urgente, des fruits et légumes, ça n'attend pas
plusieurs
semaines, on le garde. Donc de l'engrais, ça peut attendre quelques jours, ainsi de suite. Donc il y a une certaine qualité de marchandise qui détermine un certain prix de transport et une certaine durée de transport. Donc on pouvait aisément faire passer des produits
du bois
sur, et ça se faisait il y a pas longtemps. On l'a connu, les départs de bestiaux vers l'Italie il y a moins de 30 ans et qui partaient de l'Essac à l'époque en train. Je veux dire, c'était pas, on a vu, moi je suis maire de,
alors pourquoi ça ne se fait plus?
Ben parce que simplement c'est la compétitivité de la SNCF qui est, et la qualité du service qui est en cause, c'est tout, c'est uniquement ça. À l'époque, toutes les voitures qui se vendaient dans l'Aveyron arrivaient à un quai de déchargement qui se situait à la gare de La Priombe. Je suis maire de Luc La Priombe, je ne peux pas en parler, c'était pas un souvenir si lointain que ça, il date de il y a moins de 20 ans en fait. Les bestiaux partaient depuis l'Essac, le bois pouvait partir de l'Aveyron vers Rodez, et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand vous êtes un industriel, vous avez besoin d'une qualité de service, vous avez besoin d'un juste. Ce qu'on a appelé, c'était le juste à temps.
Mais si l'Union européenne permet à ce que les transporteurs routiers, à côté d'un pic fiscal et social, soient toujours moins chers, vous imaginez bien que
ça sert à tout ça, c'est sur la qualité.
Un des drames, c'est que Calberstone, c'est un gros transporteur, c'était une filiale de la SNCF.
C'est toujours une filiale.
Et Géodis
Calberstone. Et donc, les manettes du fric.
Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un pôle de compétitivité bois qui va de l'Aveyron, qui remonte par la Corrèze et qui arrive jusqu'à la Creuse. Or, effectivement, ils sont incapables de prendre les grumes de bois par le train comme ça se faisait avant, parce que la SNCF ne veut pas, enfin, on veut pas entretenir des gares pour des grumes de bois et on veut pas entretenir des voies pour ça.
Faire le TGV.
Et bien donc, sur cette évocation du bon vieux temps et de la décrépitude de nos voies ferrées, se termine Table Ovale sans ellipse, qui était consacrée essentiellement à l'écotaxe et un peu à l'excellence de l'agriculture aveyronnaise par rapport à l'agriculture bretonne. Ce soir, Claude Devezin recevait Jean-Albert Bessières pour le Parti communiste français, Frédéric Domingue pour l'Union pour un mouvement populaire, Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Jean-Louis Roussel pour le Parti de gauche et Jean-Philippe Sadoul pour l'Union des démocrates indépendant à janvier maintenant.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.